Cinquième partie. Épilogue.
Je m'appelle Harry Seldon, ex-premier ministre de l'empereur Cléon Ier, professeur émérite de psychohistoire à l'université de Stirling-sur-Trentor, directeur du projet de recherche sur la psychohistoire, directeur général de l'Encyclopédia Galactica, créateur de la Fondation. Tout cela paraît fort impressionnant, je sais. J'ai accompli bien des choses dans mes 81e année d'existence. Et je suis là. Quand je fais le bilan, je me demande si je n'aurais pas pu, pas dû, faire certaines choses autrement. Par exemple, étais-je à ce point accaparé par le grand bouleversement de la psychohistoire que les gens qui ont croisé ma vie m'ont parfois semblé négligeable par comparaison? Peut-être ai-je également omis d'opérer ici ou là quelques ajustements minimes qui n'auraient en rien compromis le futur de l'humanité mais auraient considérablement amélioré l'existence des êtres qui m'étaient chers. Hugo, Reich. Je ne peux m'empêcher de me poser la question. Y avait-il une chose que j'aurais pu faire pour sauver Madors bien-aimée? Le mois dernier, j'ai enregistré les derniers hologrammes de crise. Mon assistant, Gal Dornick, les a apportés à Terminus pour superviser leur installation dans la crypte Seldon. Il veillera à ce que la crypte soit hermétiquement scellée et que soient conservées les instructions pour sa réouverture éventuelle, lors des crises. À ce moment-là, je serai mort depuis longtemps, bien sûr. Que penseront les futurs fondateurs quand ils me verront, ou plus exactement quand ils verront mon hologramme, à l'époque de la première crise, dans presque 50 ans? Feront-ils des remarques sur mon âge, sur ma voix si faible? S'étonneront-ils que je paraisse si petit, tassé dans mon fauteuil roulant? Comprendront-ils? Apprécieront-ils le message que je leur aurai légué? Il est vain de se perdre en conjectures. Comme auraient dit les anciens, les dés sont jetés. J'ai eu des nouvelles de Gal hier. Tout va pour le mieux sur Terminus. L'exil semble profiter à bord à Lourine comme aux membres du projet. Sans vouloir me vanter, je ne peux m'empêcher de rigoler doucement en songeant à l'air suffisant de ce crétin pédant de Linj Chen quand il a banni le projet sur Terminus il y a 2 ans. Même si cet exil a été défini selon les termes d'une charte impériale, une institution scientifique financée par l'État et appartenant au domaine personnel de son auguste majesté l'empereur, car le haut commissaire ne voulait pas nous avoir sur le dos à Trentor, mais il ne pouvait supporter l'idée de nous laisser une complète autonomie, cela reste une satisfaction secrète de savoir que c'est en vérité à Las Zenao et moi que revenait le choix de Terminus pour accueillir la Fondation. Mon seul regret en ce qui concerne Linj Chen, c'est que nous n'ayons pas été capables de sauver Agis. Cet empereur était un brave homme et un noble chef, même s'il n'avait d'impérial que le nom. Son erreur a été de croire en son titre. Or, la commission de sécurité publique n'a pu tolérer ses velléités d'impérial indépendance. Je me demande souvent quel sort ils ont fait subir à Agis. L'ont-ils exilé sur quelque planète extérieure lointaine? Ou fait assassiner, comme Cléon? L'enfant installé sur le trône aujourd'hui est l'empereur fantoche idéal. Il obéit à tout ce que Linj Chen lui glisse à l'oreille et se prend pour un homme d'État en herbe. Le palais et les apparats de la vie impériale ne sont pour lui que les jouets de quelque vaste jeu fantastique. Que vais-je faire à présent? Maintenant que Gall est parti rejoindre le groupe de Terminus, je me retrouve entièrement seul. J'ai de temps à autre des nouvelles de Vanda. Le travail à Star's End poursuit normalement son cours. Ces 10 dernières années, Stettin et elle ont augmenté leurs effectifs de dizaines de mentalistes. Leur pouvoir s'accroît régulièrement. C'est le contingent de Star's End, ma fondation secrète, qui a poussé Linj Chen à envoyer sur Terminus les encyclopédistes. Vanda me manque. Cela fait bien des années que je ne l'ai pas vue. Que je ne lui ai plus tenu la main, tranquillement assis à ses côtés. Quand Vanda est partie, j'ai cru que j'allais mourir. Ce fut la décision la plus dure à prendre de ma vie. Et même si je ne le lui ai jamais avoué, j'ai bien failli me raviser. Mais pour le succès de la Fondation, il était nécessaire que Vanda et Stettin partent pour Star's End. La psychohistoire l'avait décrété, alors ce n'était pas vraiment ma décision en définitive. Je continue chaque jour à venir ici dans mon bureau du bâtiment de psychohistoire. Je me souviens du temps où cet édifice grouillait de monde jour et nuit. Parfois, je crois y entendre résonner des voix, celles de ma famille depuis longtemps disparue, des étudiants, des collègues. Mais les bureaux sont vides et silencieux. Seul résonne dans les couloirs le bourdonnement de mon fauteuil roulant électrique. Je suppose que je ferais mieux d'évacuer les lieux, de restituer le bâtiment à l'université pour qu'elle l'attribue à un autre département. Mais il m'est difficile d'abandonner cet endroit. J'y ai tant de souvenirs. Tout ce qui me reste désormais est cet objet, mon premier radiant. Grâce à lui, la psychohistoire devient calculable. Les équations de mon plan sont analysables. Quel surprenant petit cube noir. Je contemple, posé au creux de ma main, cet appareil d'aspect trompeusement simple, et je me prends à regretter de ne pouvoir le montrer à R. Daniel Olivo. Mais je suis seul. Je ferme un contact pour atténuer les lumières de la pièce. Je me cale contre le dossier de mon fauteuil et le premier radiant s'allume, déployant autour de moi sa splendeur en trois dimensions. Pour un œil profane, ce tourbillon multicolore n'est qu'un fouillis de formes et de chiffres. Mais pour moi et pour Hugo, Vanda, Gall, c'est la psychohistoire qui prend vie. Je contemple devant moi, autour de moi, l'avenir de l'humanité. 30 000 ans de chaos potentiel comprimé en un seul millénaire. Cette tâche dont l'éclat grandit de jour en jour, c'est l'équation de Terminus. Et là, déformée à en être irrécupérable, ce sont les chiffres de Trantor. Mais j'aperçois une lueur d'espoir. Elle est stable, douce et radieuse. Star's End. La voici. Oui, la voici. L'œuvre de ma vie. Mon passé, le futur de l'humanité. La Fondation, si belle, si vivante. Et rien ne pourra... Dors.
Seldon, Harry,
retrouvé mort, effondré sur son bureau de l'université de Stirling en l'an 12069 EG, an 1 de l'ère de la Fondation. Apparemment, Seldon a travaillé jusqu'au dernier moment à ses équations psychohistoriques. Serré dans sa main, on retrouva son premier radiant encore allumé. Conformément à ses instructions, l'instrument fut expédié à son collègue Gal Dornick qui venait d'émigrer sur Terminus. Le corps de Seldon fut largué dans l'espace, toujours conformément aux instructions qu'il avait laissées. Le service funèbre sur Trantor fut simple, mais suivi par une assistance nombreuse. Il convient de noter que le vieil ami de Seldon, l'ancien premier ministre Eto Demerzel, assista à la cérémonie. On ne l'avait pas revu depuis sa mystérieuse disparition, juste après le complot Joranumite sous le règne de l'empereur Cléon Ier. Les efforts de la commission de sécurité publique pour le retrouver après les funérailles de Seldon restèrent toutefois infructueux. Vanda Seldon, sa petite fille, n'assista pas à la cérémonie. Le bruit courait que, terrassée par le chagrin, elle avait refusé toute apparition publique. Jusqu'à ce jour, on se perd en conjectures sur son sort. On a dit qu'Harry Seldon avait quitté cette vie comme il avait vécu. Car il est mort en regardant le futur qu'il avait créé se déployer devant lui. Encyclopédia Galactica.